RTVFM, une femme, un homme, un territoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Une femme, un homme, un territoire. Aujourd'hui, je vous emmène à Vaison-la-Romaine pour parler éducation avec Michèle Cudot, qui est la directrice de la CAF MSA. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la CAF MSA ?
Alors, c'est un terme un petit peu barbare, donc si je traduis le sigle, c'est Association des centres d'accueil et de formation de la mutualité sociale agricole.
Tout ça.
Voilà, tout ça, ouais, qui regroupe en fait trois activités, puisque c'est à la fois un collège et un lycée professionnel, c'est un espace de vie sociale et c'est aussi un centre de formation pour adultes.
Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Quel type d'éducation vous faites ? Quel type de formation ?
Quel type de formation ? Alors, on a de la formation par voie scolaire. Donc, au niveau de la formation par voie scolaire, on a une capacité d'accueil de 140 élèves. Donc, ça représente à peu près 7 classes. 140 élèves qui se distribuent à la fois au niveau du collège. Donc, on a une classe de 4e et une classe de 3e de découverte des métiers. Donc, qui est généraliste et qui prépare au brevet national. Voilà. Et après, on est spécialisé dans le service à la personne et l'animation du territoire avec un CAP SAP Vert, donc service à la personne et vente en espace rural, et un bac pro SAPAT, service à la personne et animation du territoire.
Voilà. Voilà, c'est beaucoup de...
Donc pour la formation initiale, on est aussi un centre de formation continue. Donc on est implanté au titre de la formation professionnelle pour adultes sur la plupart des grandes villes, enfin des grandes villes du Nord Vaucluse. Donc si je fais le tour, nous avons des locaux à Carpentras, nous avons des locaux à Avignon, à Orange, à Bolène, nous sommes à Valréas et bien évidemment à Vaison-la-Romaine, où là nous faisons des formations de remise à niveau à visée générale et professionnelle, des formations aussi de remise à niveau en management des technologies de l'information, et on délivre aussi des titres professionnels et des CQP, donc des certifications de professionnels pour adultes.
D'accord. C'est un établissement qui existe depuis quand ?
1978. Donc à l'origine, c'était une école de filles, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une école ménagère qui aidait à préparer les jeunes filles à leur métier de futures femmes d'exploitants agricoles.
D'accord.
Voilà, et c'était dès l'origine, en fait, un centre de formation aussi continu pour adultes.
D'accord. Qui est donc à évoluer ?
Qui a évolué, qui a évolué vers la voie scolaire et après, avec un développement de l'activité formation continue plus élargie sur le territoire.
Et donc vous êtes la directrice de cet établissement. Quel est votre rôle ?
Alors, quel est mon rôle ?
Large, je suppose.
Large, de chef d'orchestre, on va dire. Voilà, donc je suis le pilote à bord ou le commandant. Voilà. Donc, ma mission, c'est à la fois d'en faire un établissement viable et aussi d'en assurer les conditions normales de fonctionnement et de développement. Ouais.
Et alors, est-ce que cet établissement a une particularité par rapport aux autres établissements qu'on peut connaître ?
Alors, il a plein de particularités. Donc, parmi ces particularités, on est un établissement laïque. Je pense que c'est important de le préciser. Donc, on est sous contrat d'association avec l'État, avec le ministère de l'Agriculture. Alors, on est établissement agricole, même si on ne fait pas de l'agricole, hein, mais on est présent sur le territoire sur d'autres actions de service qui sont nécessaires aussi pour y vivre. Au niveau de l'établissement, sur les particularités, alors mon président avait l'habitude de dire qu'on est une école de la deuxième chance, hein, c'est-à-dire qu'on est un établissement qui accueille, on va dire, des élèves et des stagiaires qui ne trouvent pas leur place dans un système conventionnel, dans un système classique, en fait.
Donc ça veut dire que... Donc vous m'avez parlé du brevet, donc c'était à partir de 15 ans ?
Non, on les accueille dès la sortie de 5e.
D'accord.
Donc 4e, 3e sur la deuxième partie du cycle du brevet.
Donc ça veut dire que c'est des élèves qui sont en échec scolaire ou pas forcément ?
Alors pas forcément. Alors, ça peut être des élèves qui ont des difficultés scolaires, ça peut être aussi des élèves pour lesquels la foi générale n'est pas appropriée parce que ça sera de bons manuels ou de bons professionnels, mais voilà, ce ne seront pas des intellectuels, on va dire.
Ça n'empêche pas d'avoir
comme ça, voilà, tout à fait, ouais.
Des qualités.
En fait, on a une base d'apprentissage qui repose sur le faire. Et la particularité aussi des établissements agricoles, c'est qu'on peut démarrer la voie professionnelle dès la classe de 4e. C'est-à-dire que les stages, à partir du moment où un jeune a 14 ans, il a une possibilité de faire des stages de découverte de tout type de métier, en fait.
D'accord. Donc, ouais. C'est ce que vous proposez aussi aux élèves qui viennent chez vous ?
Sur le cycle collège, oui. On leur propose, sur la quatrième, de démarrer par 5 stages sur l'année. Et sur la classe de troisième, on l'a aménagé de façon à être une espèce de voie de type prépa-apprentissage, donc avec une alternance qui est un temps école, 2 semaines en entreprise, les vacances, un temps école, 2 semaines en entreprise, etc., ce qui leur permet de se mettre petit à petit le pied à l'étrier, en fait.
C'est voilà. Ça.
Donc effectivement, on essaie de développer chez eux une intelligence à la fois pratique et concrète, oui. Et puis de les mettre dans des positions de réussite, parce que souvent sont des élèves qui vivent mal la période en fait de scolarité du collège et qui manquent de confiance en eux, hein,
donc
en
ça
leur,
veut
et
dire
en leur potentialité. Ouais.
Voilà, vous avez aussi une mission d'accompagnement dans ces cas-là ?
Tout à fait. Ouais. On a une mission d'accompagnement sur tous les élèves qu'on accueille et sur tous les stagiaires. Hein. C'est aussi notre particularité, hein, puisque ça fait partie de notre ADN. Donc c'est-à-dire qu'on va au-delà d'une simple formation par délivrance des enseignements. On a des accompagnements qui sont des accompagnements en termes de soutien, en fait.
Oui, l'équipe pédagogique est présente. J'ai vu que sur votre site internet qu'elle suivait les élèves, en tout cas, qu'elle était présente du début jusqu'à la fin de leur formation, c'est ça ?
C'est clair. C'est clair, ouais. Même quelquefois au-delà de ce qui est raisonnable, oui, tout à fait. Ouais. Voilà.
Et ça, qu'est-ce que vous avez comme retour des élèves dans ces cas-là, justement, par rapport à ce qu'ils avaient vécu avant dans les autres écoles ?
Je pense qu'a priori, ils sont satisfaits d'être là. Hein. C'est-à-dire qu'ils trouvent en tout cas une écoute et une bienveillance qui n'est pas nécessairement présente dans tous les établissements. Hein. Mmh. Après, on est un petit établissement à caractère familial. Donc, on a une capacité d'accueil, je vous dis, de 140 élèves.
Bon, ce qui est
petit en soi et ce qui nous permet aussi d'avoir un accompagnement spécifique et individualisé. Mmh. C'est-à-dire que quand on a 1000 élèves, c'est pas possible de faire de la différenciation. Voilà.
C'est plus compliqué de connaître les noms de tout le monde,
clair,
et les reconnaître.
Quand j'étais directeur de CFA, j'ai eu des gros établissements, dont un établissement qui faisait 1200 élèves, j'en connaissais 10, vous voyez.
Ah oui, bah évidemment.
Ceux qui fréquentaient particulièrement mon bureau, pour des questions de discipline.
C'est ce que j'allais dire, pas forcément pour des bonnes raisons.
Alors que là, on connaît tous les élèves, on est aussi très en proximité avec les familles. Et ça, que l'élève soit en quatrième ou que l'élève soit sur un cycle de bac ou de CAP, en fait.
D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez une spécialisation pour les élèves qui présentent des troubles de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
En fait, on a fait le constat depuis plusieurs années que beaucoup de jeunes sont confrontés à des difficultés d'apprentissage, alors qui sont de différentes natures. Hein. Donc, ça peut être des problèmes de concentration, ça peut être des problèmes de mémorisation, ça peut être de la lenteur d'exécution, par exemple en lecture ou en écriture. Et ces problèmes, c'est souvent des problèmes qui les freinent ou qui les bloquent dans leurs acquisitions. Alors, dans une salle de classe, on va dire conventionnelle, qui accueille une trentaine d'élèves, c'est soit l'élève qui est transparent dans la classe, c'est-à-dire qui dit rien, enfin, qui vit dans son monde, soit c'est l'élève qui est hyperactif et qui va se faire remarquer. Mais souvent, ce sont des élèves qui sont en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à suivre et à être dans le mouvement qui est demandé en termes de travail scolaire et en termes de suivi.
Sans forcément comprendre aussi pourquoi ils ne suivent pas comme les autres.
Moi, je pars du principe que quand un élève me dit « j'aime pas l'école », quand ils arrivent dans mon bureau, en fait, ça démarre souvent comme ça. Alors, je lui dis, on regarde un petit peu les résultats scolaires, et puis il me dit, j'aime pas l'école. Alors, je lui dis, moi, je comprends pas pourquoi on n'aime pas l'école. Donc, il faut que tu m'expliques. Et petit à petit, en fait, dans l'explication, c'est est-ce que tu lis couramment ? Non, j'ai du mal. Je retiens pas mes tables de multiplication. Je comprends pas tout ce que je lis, etc. Je comprends pas les consignes quand on me les explique, etc. Et petit à petit, on se rend compte en fait que les élèves sont face à des difficultés qui sont majeures pour eux.
Et donc c'est aussi ce qu'on appelle les enfants 10, on entend beaucoup parler de ça, est-ce que ça fait partie de ces...
Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les enfants 10, détectés ou non détectés, hein, puisque selon certains parents prennent en compte rapidement ces troubles-là, ils se questionnent et leur font faire un certain nombre de bilans, etc., qui permettent d'identifier les troubles. D'autres parents sont plus dans le déni, en fait, hein, mais on détecte vite un élève qui ne suit pas ou qui ne comprend pas, en fait, hein, lorsqu'on l'a en face-à-face dans une classe. Hein.
Oui, après, ce n'est pas toujours évident, soit parce que aussi les médecins ne vont pas forcément conseiller, c'est encore peu connu.
Tout à fait, donc, c'est peu connu, mais donc, l'idée, c'est au niveau de l'accueil de ces élèves, c'est de mettre en place des adaptations d'adaptation et qui facilitent leur scolarité. Donc on a tous été formés au 10. Donc j'ai formé la totalité de l'équipe pédagogique et on repart en formation cet été pour compléter nos connaissances et surtout développer en fait des outils et des adaptations qui sont facilitateurs pour les apprentissages.
Donc ça veut dire des exercices particuliers pour eux, des manières d'apprendre différentes ?
Alors, c'est plusieurs choses. Hein. Ça veut dire prendre en compte les besoins de chacun. Et parce que chacun apprend différemment et chacun a une forme d'intelligence différente aussi. Hein, donc ça veut dire derrière adapter les contenus de façon à ce qu'ils soient intelligibles, compréhensibles, etc. Ça veut dire aussi mettre à disposition une boîte à outils de trucs et astuces. Ouais. Mmh. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, table de multiplication. Il y a des enfants qui ne retiendront jamais les tables de multiplication. Ils peuvent les apprendre 100 000 fois, ils ne les retiendront pas. Donc on a dans la classe un espace qui est dédié où les tables de multiplication sont disponibles. Donc plutôt que l'élève bloque, parce qu'il sait trouver la solution en fait. Plutôt qu'un élève bloque, il va être autorisé à se lever et aller voir la solution. Ce qui va lui permettre après de résoudre le problème. Et là, on est en train de réfléchir à la mise en place en fait, d'éléments flexibles dans la classe, dans ce qu'on appelle des classes flexibles, c'est-à-dire des chaises, des tables en fait. Voilà. En tout cas, des objets. Du mobilier qui permet à un élève de se mettre dans les bonnes conditions d'apprentissage pour lui.
D'accord.
Voilà. Et qui peut permettre aussi à un moment donné de l'apaiser, par exemple, pour pouvoir être attentif au niveau de l'écoute. Parce que ce sont souvent des élèves qui travaillent plus sur l'écoute, avec lesquels on travaille plus sur l'écoute que sur les cris ou sur le scolaire traditionnel.
Donc, oui, je vois que c'est vraiment une manière de réfléchir l'éducation très différente de celle qu'on a connue à l'école.
Ouais. Et puis ce qui est important aussi, c'est que l'équipe pédagogique, si vous voulez, partage vraiment cette dimension-là, parce que c'est pas dans un enseignement, c'est dans tous les enseignements.
Parfait, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale, on va continuer à parler de toutes ces spécificités de la CAF MSA avec vous juste après la pause.
I know.
Vous écoutez l'émission Une femme, un homme, un territoire.
Nous sommes de retour dans Une femme, un homme, un territoire avec Michèle Cudeau, la directrice de la Café Messa. Nous parlions juste avant la pause d'une des spécificités de cet établissement scolaire qui était d'adapter son éducation à tous les enfants qui ont des problématiques, notamment les enfants 10. Alors comme c'était la pause, je n'ai pas posé la question, mais je vais le faire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire un enfant 10? Alors,
un enfant 10, c'est un enfant qui a des troubles d'apprentissage, donc qui peuvent être liés à l'orthographe. Donc on parle de dysorthographie, à la lecture, dyslexie, au calcul, dyscalculie. Ça peut être aussi des problèmes de positionnement dans l'espace, dysphasie, ou des problèmes par exemple de coordination. On appelle ça de la dyspraxie.
D'accord, oui, donc dyslexie, c'est vrai que c'est un mot qu'on connaît un petit peu plus, mais dysphasie, tout ça, c'est des noms qui ne sont pas connus.
Et certains enfants, en fait, cumulent un ou plusieurs troubles 10, selon...
Et est-ce que ça veut dire que quand on a un enfant qui est en échec scolaire, il faudrait peut-être aller creuser? Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a ce problème-là.
Non, mais ça vaut le coup d'aller creuser quand même.
Ça peut être une bonne idée.
Ouais, ça vaut le coup d'aller creuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se rend compte qu'il a un problème d'acquisition petit, par exemple de la lecture, il faut se poser quelques questions de fond. Hein. Alors j'ai un joli exemple d'une maman qui m'expliquait qu'elle avait une petite fille et qui n'arrivait pas à apprendre à lire, et il s'était rendu compte en fait qu'elle était très visuelle. Et donc ils ont associé l'apprentissage des mots avec des objets.
Et c'est comme ça qu'elle a...
Et ce qui lui a permis en fait de se débloquer, de pouvoir acquérir les bases de la lecture.
Oui, en fait, c'est ça, c'est d'arriver à trouver. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas être capable d'apprendre quelque chose, mais plutôt de trouver la manière.
C'est trouver le chemin, en
voilà,
fait. C'est trouver permettre... le chemin qui va permettre d'apprendre. Voilà. Qui va permettre d'apprendre.
Donc ça, c'est votre travail.
C'est notre travail. Et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on essaie aussi d'expérimenter d'autres voies, en fait, d'éveil par rapport aux apprentissages. Donc, par exemple, cette année, on a développé des ateliers d'échecs.
D'accord.
Pour développer le raisonnement logique, par exemple en mathématiques.
Ah oui, sur les échecs.
Voilà, ça fonctionne bien. On a développé aussi des ateliers de philosophie. Pour construire un raisonnement, voilà, par exemple. Donc on essaie aussi d'utiliser d'autres façons de faire. L'illustration, par exemple, le dessin pour l'écriture, voilà, pour amener en fait à la fois un intérêt et à la fois un chemin d'apprentissage qui peut être différent. Et j'ai un exemple notamment sur l'échec d'une élève qui est vraiment en grande difficulté, et on a été épatés. C'est-à-dire qu'elle a déployé en fait des talents innés qu'on n'avait pas vus.
Oui, donc
alors
en fait,
qu'elle
fois,
a
la clé, c'est
en mathématiques.
Tester,
ouais.
D'accord. Tester. Oui, pourtant, effectivement, on dit toujours que quelqu'un qui est doué aux échecs, c'est souvent quelqu'un qui est très bon en maths.
Eh ben.
Comme quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça votre travail, c'est ça, d'aller chercher autre chose pour pouvoir comprendre pourquoi un élève n'avance pas dans ses études et lui donner des chances.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
J'ai vu également que vous travaillez avec les élèves en projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous avez parlé un peu des stages aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des projets un peu plus...
Oui, il y en a tout un paquet, en fait, hein, puisque je vous ai dit que la base de l'apprentissage se trouve dans le faire. Ça veut dire qu'on développe une pédagogie de projet très active, puisque sur une année, on va dire Noël, normale, on a à peu près 60 projets qui tournent, toutes classes confondues.
D'accord.
Donc les projets, alors ça peut être des projets intégrés à la scolarité, hein, pour éclairer par exemple une partie d'enseignement, mais ça peut être aussi des projets qui se construisent autour d'un enseignement en fait. Donc pour vous donner un peu des idées, hein, par exemple les féeries de Noël, donc on travaille beaucoup en partenariat avec le territoire et avec les acteurs locaux. Féeries de Noël, c'est une manifestation qui se répète chaque année sur Vaison de la Romaine. Donc la semaine des féeries de Noël a été balisée toutes les après-midi, où on a créé des ateliers de cuisine et de décoration avec des publics différents. C'est-à-dire que les élèves, selon les classes, ont travaillé par exemple avec des personnes âgées à la maison de retraite, ils ont travaillé avec des habitants, ils ont travaillé avec des personnes handicapées,
etc.
C'est eux qui animent les ateliers. Voilà. Donc c'est à la fois des cours de communication, d'animation, mais c'est aussi de l'enseignement socioculturel, c'est aussi de la restauration, voilà, ça croise différentes disciplines. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est eux aussi qui décorent le lycée pour les journées portes ouvertes. Là, on a mis en place avec l'association de pêche de Vaison un projet pour tout ce qui est lié à l'eau. Donc, et ça illustre notamment les enseignements de biologie. Là, les élèves sont en train de se mobiliser pour les prochaines JPO pour fabriquer toutes sortes de douceurs qui seront vendues au marché de Vaison-la-Romaine sur les deux prochains mardis. On travaille aussi avec le bistrot mémoire.
Donc les JPO, donc, les journées portes ouvertes.
Ouais. On travaille aussi avec le bistrot mémoire, donc c'est un accompagnement des malades d'Alzheimer.
D'accord.
Donc avec l'hôpital de Vaison, voilà. On est en train d'organiser un tournoi d'échecs. Voilà. Chaque année, on a des manifestations différentes.
Et ça, c'est pour toutes les classes ?
C'est pour toutes les classes.
Elles travaillent ensemble ou c'est par niveau ?
Alors ça dépend. Par exemple, les féeries de Noël, on arrive à mixer. Après, selon les classes, on peut avoir des projets spécifiques. Donc là, par exemple, on va pouvoir refaire un cross, le cross du lycée, ce qu'on n'a pas pu faire pendant les deux ans de pandémie. On va relancer le carnaval. Voilà. Enfin, l'idée, c'est qu'on soit en fait en action de façon perpétuelle, puis de montrer aussi que les élèves, ils sont capables de faire des choses. Voilà,
Oui, puis les mettre dans le concret aussi.
Tout à fait, belle réalisation concrète.
Ouais. Ce qui fait aussi que derrière, sur un CV, ils ont des choses à écrire. Et,
tout à fait.
Et ça, pour chercher un emploi, ça facilite, ouais. Je suppose.
Tout à fait.
Et j'ai vu aussi que vous, enfin, en tout cas sur certaines classes, il y avait des propositions d'alternance. Quels avantages ça a pour un élève et une entreprise de prendre un jeune en alternance ?
Alors, ils sont pas en apprentissage, hein, ils sont en alternance parce qu'on est en voie scolaire. Hein, donc, ça veut dire qu'ils ont, selon les formations, un certain nombre de stages à accomplir dans différents types de structures. Mmh. Pour eux, c'est la base de leur acquisition professionnelle, en fait. Hein, ça leur permet de se constituer une première expérience et de vérifier aussi la future orientation qu'ils vont donner à leur métier. Hein, parce que généralement, en CAP ou en bac, il y a une poursuite d'études. Hein.
Oui. Et souvent, je suppose que quand ils arrivent, ils savent pas trop.
Ils savent pas trop
où ils veulent aller.
Voilà, ils savent pas trop. Ils statent. Certains, alors, notamment les jeunes filles, ont des engouements très forts pour les petits enfants. Voilà, 3 semaines en crèche, quelquefois, ça les fait réfléchir.
L'engouement repas.
Ils se disent que tout compte fait, un public plus adulte, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, ça reste à découvrir. Voilà.
C'est-à-dire qu'un, c'est mignon. Une dizaine, c'est
30,
peut-être différent.
30, c'est plus compliqué. Voilà.
Oui, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire évoluer leur projet au fur et à mesure ?
Tout à fait, oui. L'objectif, c'est ça, en fait. Hein, aussi, de leur faire découvrir différents types de publics, différents types de structures, différents types d'expériences, et puis après, de finaliser leur projet professionnel, parce qu'ils sont en construction. Hein.
Donc ça implique aussi que vous ayez un ancrage local qui est hyper fort pour
tout
pouvoir
fait,
avoir
ouais.
des liens avec ouais. des entreprises qui proposent tous ces stages.
Alors ça, c'est vraiment une particularité de l'établissement, c'est que cet ancrage territorial, on l'a développé au fil du temps. Hein, et la CAFE MSA est connue aussi pour ses relations partenariales.
Alors vous, quel type de stage il peut y avoir, par exemple ?
Alors ça peut être parmi les stages, alors si je prends le CAP, ça peut être un stage en maison de retraite. Alors on est plutôt sur des stages d'exécution, hein, ça peut être dans l'entretien, par exemple l'entretien des locaux, l'entretien du linge. Ça peut être sur la cuisine de la maison de retraite. En crèche, ça peut être de l'animation. Ça peut être dans une cuisine de restauration collective. Ça peut être aussi en vente de proximité, hein, par exemple Biocoop. C'est un bon exemple, hein, de faire un stage. Et après, selon le niveau d'études et notre niveau d'exigence, ils vont peaufiner, si vous voulez, le type de mission qu'ils ont à réaliser. Donc plus on va aller vers des formations de type bac, plus ils vont être sur des problématiques de situation de travail d'équipe, en fait. Donc ils vont intégrer, par exemple, une équipe d'aide-soignante à l'hôpital ou une maison de retraite ou... En tout cas, ils vont intégrer en fait les professionnels du secteur et travailler avec eux sur les tâches qui leur sont confiées.
Parfait. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre un métier. Une fois qu'on a été sur le terrain, on sait ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que des fois, on a ce que vous disiez tout à l'heure, hein, on a une idée d'un métier qui n'est pas forcément la réalité.
Tout à fait.
Et donc de le découvrir en vrai, ça aide aussi.
Et puis on les voit changer, évoluer, voilà, aussi sûr. avec
surtout
s'ils
reprennent le plaisir à apprendre et ça peut faire évoluer les projets également. J'ai vu que vous aviez aussi des formations courtes. À quelles sont destinées et quel type de sujet vous avez ?
Alors, les formations courtes sont des formations destinées aux adultes. Hein. Donc, on a des certifications de type CLEA, donc compétences de base, mais aussi compétences numériques. On a des remises à niveau, ce que je disais tout à l'heure, à visée professionnelle et à visée générale, ainsi que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a aussi des dispositifs courts de découverte des métiers, notamment dans le service à la personne. Et on a une prépa-apprentissage, donc qui est un sas de préparation en fait, avec un suivi particulier pour des jeunes qui souhaitent rentrer en apprentissage. Mais avec un temps intermédiaire qui permet de bien préparer l'entrée en fait, dans une fonction salariée.
D'accord.
Et après, on a des titres professionnels, donc on en a quatre. Un titre professionnel assistant de vie aux familles, un titre professionnel secrétaire assistante dans le tertiaire entreprise, un titre professionnel assistant RH, ressources humaines, et un assistant commercial. Et on a une certification, donc un CQP, veilleur de nuit en milieu sanitaire et social.
D'accord. Donc c'est très large en fait, oui. Hein, vos sujets sont...
Voilà, et on est en train de travailler sur l'habilitation pour un titre professionnel assistant de vie dépendance pour la partie personnes âgées, puisqu'on est aussi sur un territoire vieillissant sur lequel il y a de gros besoins en matière d'accompagnement.
Mmh. Ouais. Et donc ça veut dire derrière potentiellement des emplois assurés.
Aussi,
en tout cas.
Oui, ouais. Tout à fait.
Ça c'est... Ouais. Assez important. On va faire une deuxième pause musicale et on continuera à parler de la Café Messa juste après.
Écoutez l'émission Une femme, un homme, un territoire.
De retour dans la troisième partie d'Une femme, un homme, un territoire, où nous apprenons à mieux connaître la CAF MSA avec sa directrice Michèle Cudot. Alors, juste avant la pause, on parlait formation continue, parce que c'est vrai qu'on connaît la CAF MSA peut-être plus pour la partie collège-lycée, mais vous avez aussi toute cette proposition de formation continue. Ouais. Et vous me parliez pendant la pause de l'importance de l'inclusion pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'en fait, pendant de nombreuses années, on est toujours sur des publics en grande difficulté, hein, donc qui sont des publics fragilisés. Donc pour nous, derrière, c'est au-delà de remise à niveau, c'est aussi les remettre en situation de confiance professionnelle et aussi de les accompagner en fait dans la construction de leur projet. En fait. Donc on accueille à peu près, pour vous donner le volume, sur l'année 2021, on a accueilli à peu près de 700 stagiaires.
D'accord, c'est énorme.
Là où on a 140 élèves.
Oui, c'est ça, vous me parliez de 140 élèves. Alors,
on a accueilli 700 stagiaires. Voilà. Actuellement, on a 22 cycles de formation continue qui tournent sur les différents sites.
Et alors, combien de formateurs pour faire tout ça ? Vous êtes une sacrée équipe.
Alors, en fait, on a deux équipes pédagogiques. On a une équipe pédagogique formation initiale, voilà, qui est vraiment dans la logique... de la voie scolaire, hein, avec ses particularités et ses contraintes et ses modalités aussi d'évaluation. Et on a une équipe de formateurs professionnels prestataires de services ou contrat en CDD d'une vingtaine de personnes à peu près. D'accord. Qui tournent sur l'ensemble des sites. Mmh. Voilà, c'est deux populations de formateurs à vocation différente, en fait.
Oui. Oui, de toute façon, ces deux approches qui sont différentes, la formation continue, ouais, et la scolarité. J'ai vu également que vous aviez été agréé espace de vie sociale,
oui, tout à
en
fait,
mars
oui.
2020, par la Caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, espace de vie sociale, l'espace de vie sociale s'appelle Ventoux Solidarité. En 2018, la politique de formation continue, avant l'émergence de la loi du 8 septembre, a été pas mal bousculée sur le territoire. Hein, nous, on a perdu, à l'issue de la décision de la région, la totalité de notre activité formation continue.
D'accord.
Très clairement. Donc j'ai fermé les deux sites qu'on avait sur Orange et Carpentras et on a attendu que la loi se mette en place pour voir à quelle sauce on allait être mangé, en tout cas, comme d'autres OF. Et on s'est posé la question parce qu'on a été sollicité à la fois par la MSA et à la fois par la Caisse d'allocation familiale de la création d'un espace complémentaire, donc l'espace de vie sociale qui est un espace dédié aux habitants. Alors, ça correspond bien à notre philosophie, à notre ADN, hein, au niveau de... Et on s'est dit pourquoi pas. Donc en 2019, comme on était en attente de nouveaux marchés, des nouvelles orientations, on a commencé à travailler sur une étude de faisabilité, enfin 2018 même, quand j'ai démarré l'étude de faisabilité, et on s'est rendu compte que sur le territoire, en fait, il y avait plein de choses au niveau associatif. Il y a à peu près 200 associations sur Vaison-la-Romaine. Alors, vous pouvez tout faire, hein, du bridge, voilà, du tennis, tout ce que vous voulez, en fait. Mais il n'y avait pas de lieu central qui permettait d'être un espace un peu d'orientation, un point de repère pour les habitants. Autre que les services de la mairie, où on va pour un certain nombre de choses. Et tous les partenaires, on a mis tous les partenaires autour de la table, hein, ça a duré près d'un an, pour les questionner et voir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme objectif et comme orientation à cet espace de vie sociale. Et c'est comme ça qu'en fait a émergé l'idée en co-construction avec les partenaires locaux, et aussi avec le département, la communauté de communes, la mairie, voilà, l'ensemble des institutionnels, plus les gens qui interagissent sur le territoire au quotidien, en fait.
D'accord.
Et donc, j'ai embauché une chargée de mission en juillet 2019 pour qu'elle mette en œuvre le VS de façon opérationnelle. Et on a été agréé début 2020, en pleine pandémie.
En mars 2020.
Voilà, on devait ouvrir, en fait. On devait ouvrir officiellement au printemps. Mais on a ouvert, en fait, hein, parce que moi, j'ai maintenu l'établissement, en fait, en ouverture partielle. Et on a commencé l'activité de l'espace de vie sociale pendant la pandémie. Alors, on a le coutume de dire...
beau challenge.
Entre nous, on s'est dit... voilà, on était, en fait, le seul endroit où il y avait de la lumière pour les habitants. Mmh. Et l'espace de vie sociale, on lui a donné trois fonctionnalités, en fait. Hein. Une première fonctionnalité qui est d'être un point de repère pour les habitants, donc sur lequel ils peuvent venir demander des conseils. Hein. C'est aussi un endroit où on les aide sur tout ce qui touche à l'accès aux droits et à l'accompagnement au niveau de leur démarche administrative. Et on fait, dans ce premier axe-là, on travaille avec, et on a été aussi formé, avec un écrivain public à vocation sociale. Donc, par exemple, on aide des gens à rédiger des courriers, des requêtes, des choses, à se dépatouiller sur un certain nombre de problématiques administratives.
Non, il n'y a pas de problématiques administratives.
La responsable de l'espace de vie sociale est un travailleur social, en fait, de longue date, qui a beaucoup d'expérience. Le deuxième axe de travail, c'est du réseau, c'est de l'animation de réseau. Donc, on est sur deux réseaux, un réseau départemental numérique, en relation aussi avec France Service, puisque la communauté de communes a un espace France Service et on travaille en coopération avec eux. Et aussi dans le champ de la parentalité, qui fait partie aussi d'un des axes, on va dire, intercommunautaires, en fait, sur le territoire. Et le troisième champ de travail de l'espace de vie sociale, c'est le développement de projets, en fait. Et d'activités.
Encore des projets.
Ouais. Alors, c'est là où on fait les liens, en fait. Hein. C'est là où on fait les liens au niveau de l'intergénérationnel. Donc, on a, en fait, monté plein d'ateliers. On a des ateliers d'écriture, on a des ateliers remue-ménage, on a un café des habitants. Ce matin, on avait un café des habitants avec le CEDER et une consultation sur l'énergie qui s'est passée à la mairie de Vaison.
Donc, le CEDER, vous pouvez me dire ce que c'est ?
Alors, le CEDER, c'est un centre pour le développement des énergies renouvelables.
Voilà.
Et on a mis en place aussi des ateliers de conversation en français, pour des personnes qui maîtrisent mal la langue. On fait du soutien scolaire aussi à travers le dispositif classe. D'accord. Donc là, on était sur de la partie collège et lycée. On va démarrer le primaire l'année prochaine. Voilà.
Donc c'est un lieu qui est ouvert certaines heures toute la journée.
Alors, c'est ouvert tous les jours, y compris des fois le samedi parce qu'on a d'autres activités. On a un jardin aussi de 2000 m² qu'on est en train de créer avec les habitants et sur lequel se déroulent différentes manifestations. Donc la prochaine, c'est le 14 mai. Voilà.
D'accord. Et alors ça sera c'est jardinage ?
Non, alors on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc...
Ah, c'est préparation du jardin.
on est dans des phases de préparation.
Préparation de la terre, alors.
On n'est pas encore 2000 m², il faut les mettre en exploitation.
Ben oui, c'est énorme.
Et on est en partenariat sur ce projet-là avec la mairie, avec la DVSEA.
D'accord.
Donc c'est aussi un chantier d'insertion, en fait, pour des jeunes en rupture scolaire.
Donc vous revenez, même si on a l'impression qu'effectivement cet espace vous fait sortir un peu de votre mission de base d'éducation. Vous y revenez quand même. Enfin, il y a toujours un lien, c'est le but, c'est ça.
Alors,
c'est de créer des liens avec
les
habitants.
En fait, si vous voulez, moi j'appelle ça la stratégie de l'araignée, en fait. C'est comme une toile, en fait. C'est une toile sur laquelle on se retrouve, les partenaires, les familles, les habitants, etc. Et on est trois petites araignées qui tissons cette toile. Hein. Donc j'ai ma directrice adjointe, Swad, qui s'occupe de la formation continue. Moi qui suis chef d'établissement, donc qui est plus centrée sur la formation initiale. Et Ambarka qui est sur l'espace de vie sociale. Et en fait, alors moi j'ai coutume de dire que, par exemple, un enfant en échec, on va le retrouver en formation continue chez nous quelques années plus tard. Mais on va le retrouver aussi à l'EVS lorsqu'il est en rupture de droit, par exemple.
Donc
à quelque part, on boucle la boucle. Voilà.
Et puis, vous êtes un point de contact connu et ça crée du lien aussi. Vous parliez d'intergénérationnel.
Tout à fait.
Entre les habitants, les élèves, ce qui est intéressant.
Voilà. Et là, on vient de déménager. On est toujours au centre-ville, mais on s'est installé sur des locaux qui sont à l'arrière du lycée, en fait, et qui facilitent la proximité parce qu'ils sont avenue Jules Ferry. Et c'est une ligne de passage pour le
bien
marché,
visible.
Pour aller à la mairie, pour stationner sa voiture, et puis parce que les écoles sont pas loin aussi.
Parfait. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples de parcours que vous avez eu d'élèves qui sont venus chez vous et qu'est-ce qu'ils sont devenus pour donner quelques...
Alors, on a créé en 2019 une association des anciens élèves. Donc, ça veut dire que les anciens élèves sont sollicités régulièrement, à la fois pour parler de leur propre parcours, de formation et professionnelle, donc ils interviennent au sein des classes pour rencontrer les autres élèves. Ils viennent aussi dans le cadre des journées portes ouvertes, ça a été le cas lors de la journée porte ouverte du mois de février, où il y a une dizaine d'anciens élèves qui sont venus m'a parlé de leur lycée, en fait. Ils ont, en fait, des parcours très, très différents selon... Alors, je vais en donner deux. Donc, il y a les Célia, alors, ce qu'on appelait les Célia, c'est-à-dire qu'elles étaient deux copines, toutes les deux, en classe de terminale, qui sont aujourd'hui aides-soignantes.
D'accord. Donc,
et par exemple, un autre exemple qui est une belle réussite, c'est Christopher. Donc Christopher, il a fait le CAP SAPVER, il avait fait tous ses stages à Biocop. Il est rentré en apprentissage à Biocop pour faire un bac pro commerce. Et aujourd'hui, il est en train de finir son BTS NUC.
Nuc. Qu'est-ce que ça veut dire donc?
C'est négociation client en fait.
D'accord.
Voilà, donc, et toujours en apprentissage.
D'accord.
Voilà,
par exemple. Il était arrivé chez vous, il était dans quel état d'esprit?
Bah, c'était un jeune très timide, très réservé. Il l'est toujours d'ailleurs. Mais
il fait de la négociation client.
Il fait de la négociation client. Il a trouvé sa voie. Il était, c'était un élève à la fois sérieux, mais qui ne pouvait pas être aidé par son contexte familial, parce que les parents ne pouvaient pas aider les enfants dans le cadre de leurs apprentissages, qui s'est montré vraiment très, très volontaire et qui a joliment évolué. Alors, on a aussi Jimmy. Alors, Jimmy, lui, l'école, et lui, c'était juste pas possible. Hein. Et il est rentré à la sortie de sa troisième, il nous a fait vivre l'enfer, je le dis, voilà, il le sait.
Et, il a évacué sa colère.
Voilà, à la sortie de la troisième, alors il aimait chasser, Jimmy. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que c'est découvrir les talents. Alors, il aimait chasser. Et ce qu'il aimait quand il chassait, c'était faire de la charcuterie.
D'accord.
Des pâtés, des choses comme ça. Et en fait, il est rentré en apprentissage en boucherie, boucherie-charcuterie. Donc là, il est en brevet professionnel.
Et là, c'est pareil au niveau des débouchés derrière en
poids.
Ah,
il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci, voilà.
J'ai cru comprendre que c'était un métier qui avait du mal à trouver.
Là où il m'avait vraiment scotché, hein, c'est le jour où il est venu me voir en me disant, vous savez vraiment, là, au CFA, hein, mes copains, ils foutent rien, en fait. Je me disais, est-ce bien toi qui parle?
Souviens-toi.
Souviens-toi. Et il a commencé à concourir aussi sur des concours d'apprentis, meilleur apprenti régional, etc.
D'accord.
Voilà, comme quoi, voilà, on peut se construire un joli parcours.
Parce que, de ce que j'ai compris, chez vous, il y a de l'écoute et voilà, c'est de l'adaptation aussi.
Et
d'essayer de comprendre qu'est-ce qui anime aussi les...
Et ce qui est important, c'est qu'ils trouvent leur voie, en fait. C'est de trouver, en fait, la voie dans laquelle ils vont pouvoir se construire et être bien professionnellement, en fait.
Alors, qui est-ce qui peut venir chez vous?
Tout le monde.
C'est facile.
Tout le monde.
Non, parce que sinon, je pense que vous n'allez pas avoir assez de place.
Tout le monde. En tout état de cause, à partir du moment où un élève est scolarisé, les parents peuvent demander à nous rencontrer et envisager une intégration.
Et alors, j'ai vu que le 20 mai, il y allait avoir aussi des nouvelles journées portes ouvertes.
Tout à fait.
La fameuse JPO. Voilà,
on a une journée porte ouverte le 20 mai, donc il se passera... de 16h30 à 19h30, donc ça sera en soirée, pour accueillir les familles. Et il y aura donc deux animations. Il y a une exposition Alzheimer, qui est faite avec le Bistrot Mémoire, donc qui est aussi un projet des élèves de terminale, donc avec présence de l'association pour expliquer le travail qui est fait en collaboration avec eux. Et il y aura un tournoi d'échecs.
Les échecs, qui permet d'avoir beaucoup. Et alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Peut-être rappeler votre site internet, votre adresse, si on veut venir aux journées portes ouvertes.
Alors, pour notre adresse, c'est 19 Quai Pasteur à Vaison-la-Romaine. On est en face, tout près du pont romain et en face du vieux village, le long de la rivière. Pour consulter le site, c'est acafemessa.com. Et n'hésitez pas aussi à consulter nos pages Facebook.
Et, oui, vous animez votre
et Instagram,
page Facebook,
tout
j'ai
à
vu,
fait. Ouais. Et après, pour nous appeler pour une prise de rendez-vous, 04 90 36 01 41. Donc moi, je reçois les familles régulièrement sur des entretiens individuels, en fait.
Et qu'est-ce que peut-être vous avez un dernier message à donner aux jeunes, aux parents qui seraient peut-être en galère dans leurs études?
Alors, le dernier message que je donnerais, c'est que la voie professionnelle, en fait, c'est une chance. Ça n'est pas une voie par défaut, mais c'est vraiment une chance qui permet de se construire des beaux parcours.
Oui, c'est vrai que souvent, on a une vision peut-être un peu négative en se disant, il n'y arrive pas.
Et, mais... et j'en suis à fervent défenseur parce que j'en suis issue.
Comme quoi, on voit
comme
que
quoi, tout est possible.
Merci beaucoup, Michel Cudeau, de nous avoir donné toutes ces informations sur tout ce que vous faites à la Café Messa. N'hésitez pas à aller voir le site internet pour avoir encore plus d'informations et à venir à la journée porte ouverte le 20 mai. Je remercie Bruno pour la technique lors de cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Une femme, un homme, un territoire.